Voilà. Mais on a intitulé Tempérament dirigé par l'esprit. Pour ceux qui regardent sur WhatsApp, c'est j'ai simplifié la chose. J'ai simplement mis rempli de l'esprit. C'est plus court et droit au but sur l'essentiel de cette étude, en fait, et tout ce que cela implique. Mais on va parler de tempérament quand même, parce que comme on a vu la semaine dernière, on est tous nés avec un certain tempérament. Peu importe qui on est, c'est comme dire que, ah non, moi j'ai pas de tempérament, c'est dire, ben moi j'ai pas d'émotion non plus. Alors, non, je suis désolé, mais tout le monde a un tempérament qu'il a au moment de sa naissance, qui est modifié par la suite, qui va former son caractère par rapport à quel environnement il a grandi, par rapport à sa famille, par rapport à son pays aussi, et on a dit également, même dans ce même milieu, par rapport si c'est un garçon ou une fille qui deviendra un homme ou une femme. Toutes ces choses modifient et altèrent et influencent son tempérament qui va former son caractère. Et ensuite, on a parlé de la personnalité qui est encore une chose à part et donc il ne faut pas confondre les trois. Mais on a également dit que le tempérament avec lequel on est né, c'est le tempérament avec lequel on va mourir. Mais, de même manière que ce tempérament peut être modifié et influencé, qui formera notre caractère, ben ce tempérament, le Saint-Esprit, Dieu veut l'utiliser, le Saint-Esprit, pour aider à modifier justement ce tempérament, pour aider les choses qui sont bonnes, parce que tous les tempéraments ont des positifs, mais également des négatifs, et justement modifier surtout les négatifs. Et on avait parlé de l'apôtre Paul, hein, qui a dit ce que beaucoup d'entre nous ressentons en Romains 7, 18 à 20. Et ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je ne vais pas refaire la partie de cette étude, de ces versets, mais je crois que beaucoup de chrétiens peuvent justement dire, ben, Paul, il me comprend. Parce que je comprends ce que Paul, il luttait. Il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qui est bien. Ah, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait ce que je savais était mal, malgré le fait de savoir ce qui était bien. Et ce qui était mal, je ne veux pas faire ce qui est mal, je l'ai fait quand même. Et ce n'est pas moi, c'est le péché qui habite en moi. On parle de cette nature, cette pécheresse que nous avons, et notre chair, l'homme naturel, tout cela. Ça fait référence à notre tempérament, cette nature qu'on est né, que nous héréditons de nos parents depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Et donc on a dit parler de la différence des caractères des personnes et de la personnalité. Donc, il faut que je revienne. Tenez-moi quelques secondes. Bon, la question qu'on pose, hein, est-ce qu'on peut changer, je l'ai déjà un peu répondu là, notre tempérament. Sinon, ben, c'est le tempérament lui-même, on comprend, on ne le change pas. Mais il est possible de laisser le Seigneur nous influencer pour nous aider à utiliser notre tempérament d'une meilleure façon possible. L'apôtre Paul, encore une fois, hein, c'est en Romains chapitre 7, versets 24 et 25, nous dit: Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort? Parce qu'encore, on voit cette lutte qu'il a en lui, entre ce qu'il sait être bien et mauvais, etc., de ne pas toujours faire ce qu'il veut. Mais heureusement que ce chapitre, il ne se termine pas avec juste verset 24, Misérable que je suis, qui me délivrera? Puis il s'arrête là, bon, maintenant parlons d'autre chose. Heureusement qu'il y a le verset 25, il dit: Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, pourquoi devrons-nous rendre grâce à Dieu? Hein, c'est parce que nous avons justement une délivrance à la question du verset 24 qui se trouve dans la personne même de Jésus-Christ. C'est pour ça que grâce soit rendue par Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui nous donne cette réponse à ce grand besoin que nous avons. Et c'est pour ça qu'il peut dire plus tard, en 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de la force de notre pouvoir de persuasion, de la force de nous de vouloir changer les choses. Non, Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par lui, en lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, on a par Christ cette possibilité de vaincre cette chair, de vaincre la tendance de notre corps, de notre chair qui veut toujours aller vers le péché, notre tempérament et de ses mauvais effets du tempérament qui veut nous diriger loin de Dieu. Il dit non, ça c'est des choses qui sont devenues nouvelles quand on accepte Christ. Et on va revenir à cela dans un instant. Mais nous pouvons, j'imagine que vous aussi bien que moi, on peut rencontrer des personnes qui possèdent une maîtrise de soi, je vais dire exceptionnelle, qui est plus grande que la moyenne de l'homme. C'est des personnes qui ont vu, ça, il y a des choses que j'aime pas, il y a des choses que je devrais pas faire, et ils ont une maîtrise de soi vraiment, ils ont une discipline, une maîtrise qui est hors norme, plus fort que les autres. Et ils ont pu même, grâce à cela, changer un peu leur tempérament. Les points faibles de leur tempérament, ils ont réussi à les restreindre, à les diminuer, au moins l'influence qu'ils ont. Et même, ils ont pu réussir à avoir une influence sur une grande partie de leur vie, la façon de vivre. Et on sait que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et on sait que ça ne s'est pas fait sans effort de leur part. Et ça ne s'est pas fait tout seul. Mais on sait également que peu importe les changements qu'ils ont pu opérer dans leur vie, les bons changements qu'ils ont pu faire pour contrôler leur tempérament de base majeur, ils n'ont quand même pas pu éliminer tous leurs défauts. Parce qu'eux aussi, ils sont assaillis par leur propre péché, par leur nature pécheresse. Ils ne peuvent pas enlever cette nature pécheresse. Peu importe la force de caractère qu'ils ont, ils ne peuvent pas enlever complètement l'influence de leur nature pécheresse entièrement. C'est impossible. Et il y a un docteur, Henry Brandt, c'est un psychologue chrétien assez renommé. Il a affirmé devant un groupe de pasteurs que si ces patients ne voulaient pas accepter Christ dans leur vie, qu'ils ne pouvaient pas les aider dans la durée. Il peut les aider à faire certains choix pour améliorer leur façon de vivre, mais qu'ils ne pouvaient pas les aider à changer ce qui était nécessaire à changer dans leur vie s'ils refusaient d'accepter Christ dans leur vie. Et Dr. Brandt disait qu'il ne connaît dans la psychologie absolument aucune possibilité de guérison pour tous les problèmes du comportement humain. Et ce qui est assez logique, parce que par rapport à ce qu'on sait, le mot même psychologie, c'est des réponses humaines aux besoins humains. Alors que le besoin n'est jamais que humain. Quand on parle de notre tempérament, on parle de notre caractère, on parle de notre nature pécheresse, on automatiquement devra aller également dans le domaine divin. Et donc, il n'y aura jamais de solution humaine qui apportera une solution divine. Et en revanche, il avait trouvé, ce docteur Brandt, avait trouvé qu'en Jésus-Christ, une réponse à tous les problèmes. Vraiment une réponse sans limite aux problèmes humains. Et afin de mieux illustrer la confiance absolue qu'avait le docteur Brandt en la puissance de Jésus-Christ, on peut le citer quand il a dit « Vous pouvez utiliser votre passé et votre environnement comme excuse pour votre comportement actuel jusqu'à ce que vous receviez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Après cela, vous possédez en vous-même une puissance nouvelle qui peut changer votre comportement. » Donc oui, tant que vous n'êtes pas sauvé, vous pouvez blâmer, comme aiment le faire les psychologues. Parle-moi de tes parents, parle-moi de tes grands-parents. Comment était ton enfance? Ah ben c'est pas ta faute, c'est tes parents. Tu peux blâmer ton environnement, ce que tu veux, mais à partir du moment que tu acceptes le salut que Dieu offre, et avec ce salut, justement, cette nouvelle vie en Christ, le Saint-Esprit en toi, tu ne peux plus blâmer les autres pour tes comportements à partir de ce moment-là. Et on est sans excuse. Alors, de nombreux pasteurs ont eu la très grande joie de voir l'Esprit de Dieu prendre en charge des tempéraments faibles, on veut même dire des tempéraments dépravés, et les transformer, après le salut, en des personnes où les personnes, la famille, les amis qui les connaissaient, les trouvaient méconnaissables. Je connais moi-même pas mal de personnes qui ont ce témoignage. Je suis certain que Damaris et Pasteur Dolder pourraient en partager à foison aussi. J'ai un pasteur que j'aimais beaucoup en grandissant, qui était en Allemagne. Et j'ai appris plus tard que c'était un ivrogne avant d'être sauvé. C'était un alcoolique avéré et battait sa femme, comme beaucoup d'alcooliques malheureusement. Et le jour qu'il s'est converti, il y avait un changement radical dans sa vie. Et ce changement radical s'est avéré jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est pas juste le fait qu'il n'ait jamais retourné à l'alcool, qu'il ne s'est jamais retourné à des explosions de colère qui s'est transformé envers sa femme ou en quelqu'un d'autre, mais c'est pas juste du jour au lendemain, mais il a eu une transformation totale de tout son tempérament, de sa façon de vivre, de sa façon d'être, où il était devenu méconnaissable aux yeux des autres. Et ça, c'est un exemple parmi des milliers qu'on pourrait citer. Et que ce soit, comme on va voir, les différents types de tempéraments, le colérique, comme il dit, contrôlé par l'alcool, ou un nombre interminable d'autres exemples de la puissance du Saint-Esprit qui a la capacité de vraiment transformer la vie d'une personne. Si on ne croit pas que Dieu soit capable de faire cela, alors pourquoi prier à ce qu'il le fasse? Si on ne croit pas que Dieu puisse vraiment, pas juste sauver une personne et changer son état éternel, mais qu'il peut également transformer sa vie pendant qu'il vit sur terre, peu importe ses besoins, ça ne veut pas dire qu'il enlèvera toutes ces choses. On l'a déjà dit, on l'a déjà parlé de justement l'apôtre Paul avec son écharpe dans la chair. Ça ne veut pas dire qu'il enlèvera tout ce qui lui peine dans la vie et les difficultés qui... Mais on parle de tempérament, on ne parle pas de problèmes physiques, on ne parle pas de problèmes mentaux, on ne parle pas de problèmes sociaux, on parle de tempérament de base majeure. De la façon, les choses qu'on a dit, on l'a vu la dernière fois. Ce qui nous définit, qui nous dit qui nous sommes, pourquoi on agit de la façon qu'on agit. Et comme on l'a vu dans le passage de 2 Corinthiens 5, et comme nous le rappelle Jean chapitre 15, quand il utilise l'image du cep et du sarment, comme au moment de notre salut, nous avons été coupés de ce monde pour être attachés à Christ. Et donc, toute la nourriture qu'on devrait recevoir n'est plus tirée de notre chair, de notre vieille nature et de ce monde, mais du Saint-Esprit, de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. Et ça change tout. Le cep qui est coupé, et le sarment et les deux qui sont attachés, c'est pas celui qui est coupé qui va déterminer au reste qu'est-ce qu'ils vont produire comme fruit. C'est celui qui est attaché qui va changer ce qu'il produit comme fruit. Et au moment de notre salut, nous avons accepté Christ et nous avons reçu, oui, on parle, on aime parler du pardon de notre péché, nous avons une nouvelle vie en Christ et le Saint-Esprit en nous. Et c'est pour ça qu'on a ce verset en Corinthiens, il dit « Les choses anciennes sont passées ». Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça devrait être pas juste un verset, ah oui, c'est vrai, c'est beau, mais c'est un verset qui devrait nous démontrer les possibilités que Dieu voudrait faire dans notre vie. Nous sommes ensuite encouragés de toujours être également remplis de l'Esprit. C'est Ephésiens 5, 18. Et on va parler de justement qu'est-ce que ce mot « rempli » veut dire et comment ça peut se faire, etc. Ce n'est pas une question de perdre le Saint-Esprit, mais une question de soumission et d'obéissance au Saint-Esprit. Ce n'est pas une question, souvent, moi, encore une fois, en tant que gamin, quand je voyais et que j'entendais prêcher sur ce verset d'être rempli, automatiquement, comme on a souvent les images, c'est un verre d'eau, à moitié ou à trois quarts ou à un quart rempli, il faut être rempli, donc ça déborde. c'est pas vraiment une question de quantité d'être rempli du Saint-Esprit. C'est une question de, comme on le verra, de soumission et d'obéissance et d'humilité au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous dirige, il nous dit, voici ce que je veux que tu fasses, voici comment je veux que tu réagisses. Je sais que ta chair te dit de rendre l'appareil, mais moi je te dis que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question, soit j'obéis ou j'obéis pas. Soit j'accepte ou je ne le fais pas. Et on va parler plus en détail, on va parler justement des passages qui parlent de ne pas attrister le Saint-Esprit et l'autre passage qui parle de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Mais avant d'en arriver là, il serait bon pour nous d'examiner les types de fonds de tempérament, leurs points forts et leurs défauts, et ça on continuera, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais j'ai dépassé de 3 minutes, c'est moins que le pasteur Dollier il y a 2 semaines, hein. Il a dépassé de 20 minutes. Mais si vous voulez bien terminer pour que je prenne la place. Mais est-ce qu'il y a des questions ou commentaires par rapport au petit peu de choses qu'on a vues ce soir?
C'est intéressant, parce que je n'avais pas vu ça. Tu sais, quand tu dis qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est pas forcément être rempli du Saint-Esprit, c'est faire sa volonté.
Ouais.
Mais c'est, d'une certaine façon, on pourrait peut-être dire que faire sa volonté, ça nous remplit du Saint-Esprit.
C'est vrai, c'est vrai. Parce que vous voyez, c'est pas juste le Saint-Esprit. Si on voit le Saint-Esprit comme une personne, et il dit, tiens, je veux... il ne va pas juste mettre, tu fais une partie de ma volonté, alors tu as un bras de moi.
Ah ouais.
Ça
donne une mesure.
Voilà. C'est, là, tu ne veux pas, ben là, je te retire mon pied. Non, c'est pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est les deux choses. Le mot lui-même induit dans cette direction et les images qui sont souvent apportées, qui sont données, va dans cette direction aussi. Donc ça se comprend. Oui, Suzanne.
Non, c'est juste le fait que ça me fait penser au début de ce verset-là, où c'est marqué « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Donc c'est plus qui a le contrôle, qui a le pouvoir, comme ce qui est ivre, il est
contrôlé par l'alcool. Ouais.
Ouais.
C'est vrai. Damaris.
Moi, je pense souvent à. On fait souvent des expériences avec les enfants avec un verre d'eau avec de l'huile dedans et ça ne se mélange pas.
Ouais.
Mais j'aime bien l'image parce que quand on met beaucoup d'huile, si on verse de l'eau dedans, l'eau, enfin, il y en a un qui est plus lourd que l'autre. C'est celui qui sera le plus lourd qui va rester et il va. Enlever ce qui est le plus léger, en fait, à force de verser, ça va partir. Mais souvent, nous, on prend beaucoup de place et on a besoin que le Saint-Esprit, il nous influence, on le laisse prendre plus de place et plus on lui laisse prendre la place, plus il va nous remplir. En fait.
Effectivement, ça va avec les versets qui nous disent « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. » Sacrifice ta chair, tes émotions, tes envies, remplace-le par, on va le voir, ça, une grande partie d'être rempli de l'esprit, c'est du moins pour cette étude, est lié avec Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Donc on va voir cette partie de, si on est rempli du fruit que seul le Saint-Esprit peut nous aider à vraiment démontrer notre vie, ben, il y aura moins de nous. Que je diminue, qu'il croisse. Et etc. Il y a tellement de versets qui nous parlent de ce n'est pas nous, moins de nous et plus de la nouvelle vie que nous avons en Christ. Mais c'est notre chair, justement, elle n'aime pas moins de nous, elle aime plus de nous. Donc c'est une lutte constante. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, même parfois des luttes qu'on pensait avoir conquis peuvent revenir.
Moi, il y a un truc que j'ai remarqué sur ça, c'est que quand on pense qu'on a eu une victoire, on va dire, en fait, il ne faut pas le dire.
Ouais. C'est très dangereux.
Il ne faut pas le dire.
C'est le moment le plus dangereux.
Parce que des moments, on a envie de témoigner aux autres,
oui.
Mais finalement, Enfin, moi, je l'ai vécu. Hein,
que... On l'a tous vécu, je te rassure.
Ouais, bon,
je te rassure.
C'est pas juste toi. Celui qui est peur de tomber, c'est ça. Celui
ouais.
qui pense.
Celui qui est debout prenne garde de tomber. Ouais. Voilà. Mais c'est... J'ai entendu beaucoup de pasteurs le prêcher et j'ai dû le faire aussi. Ils disent après, surtout les grandes victoires, les victoires qui ont pris du temps pour vraiment avoir la victoire sur quelque chose qui était difficile, que tout de suite après, il faut faire attention. Les grandes chutes se font après.
Aussi, ouais.
Et c'est juste dans la pratique, c'est ce qu'on voit.
Et puis des moments, ça peut être aussi, oui, ça peut être aussi une sorte de... Je te resserre quelque chose.
Ouais.
Pour voir.
Pour voir, ouais. Est-ce que tu vas te reposer sur tes lauriers ou tu as eu cette victoire parce que tu as eu confiance et tu t'es soumis à ma volonté, mais est-ce que tu vas continuer ou est-ce que tu te crois maintenant assez fort pour... Parce que souvent, dit, j'ai réussi. Non, non, tu as réussi.
Moi.
Bon. C'est normal d'avoir certaines de ces expressions, mais le Seigneur veut voir si dans notre cœur on sait qu'on a pu rien faire sans lui. Quoi.
Mais c'est toujours bien de célébrer les victoires.
Oui.
Moi je dis.
Ah bon? Ouais.
Non.
Moi je suis un peu. Franchement, j'ai pas trop. Mes temps sont
suffisants. Au pire des cas, on peut être reconnaissant pour les victoires.
Oui,
ou alors, oui, enfin le dire, mais ne pas les nommer.
Oui,
enfin ne pas dire dans quel domaine.
On peut retomber.
Mais les dire qu'on a eu une victoire, des victoires,
ouais.
Mais oui, les nommer, franchement, moi je m'en préserverai maintenant.
Est-ce que c'est une victoire de ne pas les nommer, de dire qu'on ne les nomme pas? je te taquine.
On aime bien aller chercher les gens.
Non, mais...
Mais, ce qui est